vue intéressant parce qu'on n'a pas forcément que des auteurs qui se contentent d'écrire du thriller, puisque que ce soit Heyerdahl ou Pierre Bordage, on a aussi des auteurs de science-fiction. Donc on verra peut-être avec eux, et puis avec Philippe aussi, directeur de collection, où on parle aussi fantastique et science-fiction, voir si il peut y avoir des liens, si finalement il y a une filiation entre le thriller et justement la science-fiction. Mais on va commencer d'abord. Pourquoi décider de faire du thriller à Heyerdahl, par exemple? avec évidemment transparence et résurgence.
Le besoin de bouffer, tout bêtement. Il faut être clair, on gagne à peu près 20 fois plus. Il se trouvait que j'avais un sujet que je ne pouvais pas traiter de façon science-fictive. Il n'avait de sens d'être que s'il l'était dans notre monde contemporain. Et avec sa géopolitique telle qu'elle est dessinée, c'est tout ce qui m'a poussé au thriller. Après, par contre, il est vrai que j'ai pris conscience en écrivant ce bouquin que tout ce que je considérais comme très important, c'est-à-dire me servir de la science-fiction pour décaler mon propos de façon à ce qu'il ne soit pas trop catégorique, je parle de mon propos idéologique, politique, philosophique, ça pouvait très bien être fait dans le monde contemporain et ça pouvait même être fait de façon beaucoup plus efficace. Donc j'y suis un petit peu resté avec Résurgence et je continue. D'ailleurs, celui que je suis en train d'écrire, c'est encore un thriller. Je reviendrai à l'ASF, un de ces quatre, mais pour l'instant, j'ai des choses à vider qui ont besoin d'être dites dans le monde que nous connaissons tous et pas d'être métaphoriqué. Ouh, il est joli celui-là. On note Métaphorica Heyerdahl 2011. Voilà.
Pourquoi ? Parce que il faut, par rapport au message que tu veux faire passer, qu'on puisse vraiment reconnaître la situation, qu'on ne cherche pas forcément à lire entre les lignes.
Je pense qu'il y a des choses importantes qui doivent passer entre les lignes, c'est-à-dire qu'elles doivent simplement être là, présentes en sous-main, parce que c'est chiant, sinon on lirait de la philo, hein, ou de la socio, ou des bouquins politiques. Et franchement, vu les chiffres de vente qu'ils font, non, je ne peux pas bouffer avec. On ne s'ennuie pas dans un roman. Il y a une histoire, il y a des personnages, tu te laisses porter, il y a plein de choses. Donc tout ce qui est le regard sociologique, philosophique et politique que peut avoir l'auteur, il reste discret. Et dans la science-fiction, on métaphorise beaucoup plus qu'on peut être amené à le faire dans le monde contemporain, parce que nous connaissons tous la situation. Je veux dire, si je mets deux mots l'un à côté de l'autre, par exemple, je ne sais pas, Israël-Palestine, tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Si je mets Ichnichnum et Larkvit, il va falloir 250 pages pour que j'explique que je fais une référence à Israël et Palestine.
Pierre, même question, parce que on te connaît comme auteur de science-fiction, et puis il y a eu des thrillers également. Même chose que pour Heyerdahl, c'est une manière de parler différemment de sujets contemporains.
J'ai découvert que je faisais du thriller après avoir écrit et que quand j'ai eu des échos comme quoi c'était un thriller et que je me suis retrouvé chroniqué sur des sites de thriller, entre autres pour Porteur d'âme, mon intention n'était pas de faire un thriller du tout. Je voulais faire une histoire qui se déroulait dans un monde plus contemporain que ce que je fais d'habitude. Et comme il y avait un flic dedans, voilà, qu'il y avait une enquête, qu'il y avait des morts et tout ça, ouais, c'est un thriller. Et donc je me suis retrouvé auteur de thriller sans le vouloir.
Mais il y a un rythme aussi.
Il y a un rythme. Bon, et le rythme, on le retrouve. Enfin, alors tu évoquais tout à l'heure l'anticipation, le thriller et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des passerelles? Oui, bien sûr qu'il y a des passerelles, parce que dans l'anticipation, c'est souvent travaillé aussi. Thriller, ça veut dire suspense, ça veut dire angoisse, ça veut dire voilà, sorcellerie, tant attendu.
C'est pas beau de dénoncer ses petits camarades qui arrivent en retard.
Non, mais ça se remarque aussi.
Fallait chercher un mot chez le directeur.
Moi, je travaille vraiment toujours avec le même principe qui est, effectivement, comme disait Heyerdahl, de raconter une histoire, d'essayer d'intéresser le plus possible les gens, de les emmener dans une intrigue, si possible à le temps, que ce soit dans la science-fiction ou dans les univers plus contemporains. Et donc, apparemment, quand on fait ça dans un univers plus contemporain, on est dans la catégorie des thrillers. Voilà. Et j'ai dû avoir quelques livres qui appartiennent à ce genre-là, de façon un peu globale. L'Ange de l'Abîme, Les Chemins de Damas, et L'Évangile du Serpent, plus le Porteur d'âme. Ce sont des univers plus contemporains, construits de la même façon avec plusieurs personnages qui mènent leurs intrigues parallèles et qui finissent par se croiser. Avec un certain sens de suspense, et donc voilà comment on se retrouve écrivain de thriller.
Philippe, on va revenir parce que là devant il y a Mascarade. Là aussi finalement on va rejoindre le propos d'Ayerdal hein, sur la dimension politique aussi du thriller.
Oui, le thriller dans la main c'est quelque chose qui bascule entre roman policier, roman d'espionnage et roman d'aventure. C'est-à-dire que moi j'écris du thriller d'abord parce que en tant que lecteur j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que j'ai grandi entre la collection d'espionnage de mon grand-père, c'était à l'époque, je crois que c'était le Gorille, mon père est passé au SS-117, et donc moi j'ai grandi là-dessus. Et moi j'adorais ce genre d'espionnage, qui n'est plus très à la mode maintenant, et qui était remplacé justement par ce thriller. Donc dans le thriller, on fait passer peut-être un message peut-être plus facilement. Mais pour moi, je veux dire que dans Mascarade, c'est le Pays Basque, donc ça aurait pu être n'importe quelle autre galaxie. Mais comme je connais bien le Pays Basque, je ne connais pas les autres galaxies, je me suis dit que c'était facile pour moi d'écrire un thriller, mais un thriller en plus qui mélange le fantastique. Parce que moi, d'un côté, j'avais les romans d'espionnage, d'autre côté, j'ai tout ce que j'ai aimé, c'est le roman fantastique. Et donc mélanger les deux, pour moi, a été une aventure.
Alors justement, la dimension fantastique, elle est très intéressante aussi dans Mascarade, parce que c'est une dimension culturelle hein, qui se mêle.
Parce que je me suis dit, c'est fantastique, on parle beaucoup de pays, et surtout des Celtes, tout ça. Je me suis dit, on ne parle pas beaucoup du Pays Basque. Le Pays Basque a une culture qui est à la fois une culture de thriller, je veux dire, tout le monde connaît le théâtre, tout le monde connaît ses problèmes. Elle a une culture fantastique grâce à toute cette mythologie, parce que le Pays Basque est un pays, je dirais, pratiquement unique, avec une langue unique, avec une musique unique, avec une mythologie unique. Et donc, c'est vraiment, pour un auteur, c'est un terreau fertile et exceptionnel.
Alors, on apprend, par exemple, que ce sont les Basques qui ont battu Roland à Roncevaux et pas les Sarrasins.
Voilà, ça, c'est... C'est-à-dire que nous, les Français, on a une culture de défaite. On a les Anglais qui nous ont battus plusieurs fois, ici à Waterloo. On a les Allemands qui nous ont battus en juillet 82 à Séville. Et puis, à Roncevaux. Roncevaux, c'est peut-être c'est aussi un mystère. Je veux dire que pendant des années, la France a dit non, on n'a pas été battu par des montagnards basques, on a été battu par une armée sarrasine. Et pour moi, c'est depuis peu qu'on sait vraiment que ce sont des Basques qui ont battu le Charlemagne. Et Charlemagne reste quand même un des personnages importants de notre histoire. Et ce qui est aussi d'intéressant, moi, et qu'on n'a jamais su pourquoi, c'est que Charlemagne perd à Roncevaux, perd toute son arrière-garde, son neveu, et il n'est jamais revenu se venger. Jamais il est revenu du côté du sud et du Pays Basque. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a eu d'autres choses? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Roncevaux, c'est une grande défaite française.
Bon, faut pas le dire trop fort, hein, parce que les Basques vont avoir du mal à trouver du travail après. Tant qu'on sait que c'est les Sarrasins, c'est moins gênant, mais...
Non, mais déjà, bon, le problème espagnol, là, en ce moment, ça ferait déjà un très bon thriller, tout ce qui se passe en Espagne, en ce moment.
Cédric, on parlait de la dimension fantastique du thriller. Chez toi, c'est... intimement lié hein, depuis l'enfant des cimetières jusqu'au jeu de l'ombre, même si le jeu de l'ombre, c'est peut-être celui qui est plus vraiment un thriller.
Alors, je sais pas. Non, mais ce que j'ai envie de dire déjà avant, et entre en grosse parenthèse, la question des étiquettes, ça m'a toujours un peu sidéré et ça me dépasse, surtout que je me rends compte qu'elles changent pour désigner les mêmes choses. C'est un petit peu en musique qu'il y a la même chose. Le hard rock est devenu le métal. Aujourd'hui, ce qu'on appelle thriller, dans les années 80, on appelait ça l'horreur, tout simplement. C'est surtout du marketing. Donc, j'ai du mal à me positionner là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai grandi en lisant des romans d'aventure aussi. Moi, c'était plutôt les Bob Moran plutôt que des OSS, mais c'était là la même idée. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est le divertissement, les bonnes histoires. Tout simplement, et j'ai l'impression que... Et puis réussir aussi à provoquer des émotions et des sensations fortes chez le lecteur. Donc forcément, le pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui le thriller, il est assez logique. L'espèce de grand frisson, les montagnes russes, des émotions, il y a des techniques narratives qui permettent ça. Donc les meurtres, les mystères, notre vie qui n'est pas forcément celle qu'on connaît, la manipulation. Mais voilà, et en ce qui me concerne, c'est vraiment toujours... Et même les éléments fantastiques, ce sont des... C'est une façon aussi pour moi de représenter la vie, le monde réel tel qu'il m'entoure, mais avec des métaphores ou tel que moi je le fantasme, dans cet univers-là, dans cet univers un petit peu noir. Donc tout ça se mélange de manière assez naturelle, finalement.
Les deux précédents, il y avait beaucoup, beaucoup d'action. Celui-là, il y a plus un côté psychologique, hein, il y a plus une tension qui monte au fur et à mesure.
En fait, jusqu'à présent, et j'espère que ça va continuer, j'ai jamais réellement fait deux fois le même bouquin, et puis ça m'intéresserait pas de raconter deux fois la même chose de la même manière. Donc pour moi, c'est un nouveau défi à chaque fois. Et c'est vrai que L'Enfant des cimetières, il était beaucoup plus fantastique dans le sens traditionnel, surnaturel. De Fièvre et de sang, on était plus... À mes yeux, c'est plutôt De Fièvre et de sang, le plus thriller de ces trois d'ailleurs, puisqu'il y a vraiment le côté rythme, le côté danger tout le temps, tension, une personne est prisonnière, il faut la sauver. Excusez-moi. Et celui-là, j'avais envie, surtout après avoir écrit un livre qui est dans l'action pure de la première à la dernière ligne, j'avais envie d'avoir deux histoires en parallèle, ce que j'avais jamais fait. Une enquête policière d'un côté et de l'autre côté, la descente aux enfers de quelqu'un à qui il est arrivé un accident et dont la vie lui échappe petit à petit, se fait harceler, et c'est aussi des codes du thriller d'ailleurs, et de faire en sorte que la bizarrerie arrive très progressivement et de ne pas commencer cash, de plutôt avoir un grain plus réaliste et d'avoir cette réalité qui dérape de plus en plus et un danger qui se resserre et un crescendo jusqu'à la fin et où ça se finit donc de manière très, très brutale. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle du thriller aujourd'hui. Mais c'est pas, à la base, c'était pas un but, c'était pas, ça s'est fait naturellement. Et le prochain sera, d'ailleurs, j'ai commencé à l'écrire plus dans l'action à nouveau. Je trouve que c'est intéressant de toujours réussir à surprendre le lecteur et de jamais faire deux fois la même chose.
Bah, ça marche, hein, parce que moi je suis allé voir un peu sur les blogs ce qui se dit, et effectivement, y a pas mal de lecteurs qui apprécient le jeu de l'ombre, mais qui sont peut-être un petit peu déroutés par rapport aux deux précédents.
J'ai entendu tout sur celui-là, il y a des gens qui... À mes yeux, c'est mon meilleur. C'est le plus mature que j'ai fait, mais j'ai des lecteurs qui m'ont reproché qu'il y a moins de surnaturel grandiloquent, il y a moins de démons à 3 bits hein, et de choses que j'ai pu faire par le passé. Et ils ont raison. Après, ils l'ont vécu comme ça, donc, mais c'est. Voilà. Ça m'embêterait de refaire toujours la même histoire ou avec les mêmes personnages. Voilà.
À Yardal, il y a aussi une dimension fantastique dans Transparence et dans Résurgence, même si elle est finement abordée. Elle n'est pas au centre forcément totalement de l'histoire, mais elle est importante.
Oui, en tout cas dans Transparence, on peut estimer qu'il y a, un aspect fantastique réellement et qui malheureusement devient dans Résurgence un aspect science-fictif parce qu'il y a des personnages qui trouvent le moyen de l'expliquer. J'ai mis 6 ans avant de trouver une explication quand même.
Parce qu'il faut le dire pour ceux qui n'auraient pas lu Transparence, on a un personnage qui est méconnaissable au sens strict du terme, c'est ça ?
C'est quelqu'un qui est probablement assis entre Cédric et moi, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ça ne va pas l'empêcher de nous décapiter au besoin si on dit une grosse sottise. Et là, on va s'en apercevoir qu'elle est là un peu tard. Voilà. Alors, on a tendance à l'oublier... Elle sait même se rendre un flou sur les photos, les vidéos. Ouais, donc effectivement, on peut parler d'un petit aspect fantastique quand même. Enfin, j'ai une chatte qui est comme ça, qui s'appelle d'ailleurs, qui porte le même nom que le personnage en question. Et bah, c'est pareil, on a tendance à ne pas la voir, à ne pas l'oublier, et elle n'imprime pas les photos.
Ouais. Très bien, bah voilà pour cette dimension. Elle apporte quoi justement au récit, cette dimension fantastique ?
En fait, ce récit n'existe que parce que la première chose qui a créé ce récit, c'est la dimension fantastique que j'ai empruntée à Roland C. Wagner. Dans sa série Les futurs mystères de Paris, il y a un personnage qui s'appelle Thème, pour faire simple, et qui, lui, est transparent, mais malgré lui, je veux dire, il aimerait bien de temps en temps que les gens le remarquent, mais il est obligé de porter un borsalino vert fluo, des vêtements complètement délirants, pour qu'on l'aperçoive un petit peu, mais pas vraiment, qu'on l'oublie. Il est là et on l'oublie. Mais il aimerait bien, lui, qu'on le voit, tu vois. Et j'avais eu envie d'utiliser cette transparence qui a créé... Alors, c'est même pas Roland le créateur, il y a eu d'autres auteurs avant qui s'en étaient servis. J'avais eu envie de la mettre en scène, et c'est comme ça que le récit est né.
Et ça crée presque un mythe, finalement.
Oui, c'est mon aspect, d'auteur de SF. Hein. Pierre, non, tu l'as pas encore fait d'expliquer que nous venons tous de la mythologie. Pas encore, ça viendra. Et donc oui, ça crée un mythe et on est dans les comment on appelle ça en anglais, c'est très joli, en français c'est très affreux, les contes et légendes urbaines. Voilà.
Pierre, dans l'anticipation, par exemple, je pense au feu de Dieu. Là aussi, il peut y avoir peut-être pas un aspect fantastique à proprement parler, mais enfin, il se passe quand même des choses dans un monde et dans une France en l'occurrence qui ne sont pas forcément habituelles.
Oui.
heureusement.
C'est-à-dire qu'il y a une réaction, enfin, une réveil d'une activité volcanique, donc projection de sang dans l'atmosphère, qui se passe en glissement d'actement, enfin, tout s'arrête. Et donc, ça veut dire refroidissement immédiat, ça veut dire que derrière le soleil ne passe plus et que le monde devient glacé en quelques jours. Donc, moi, effectivement, j'ai un tout petit peu mal avec la réalité pure, nue. J'ai toujours besoin d'un décalage imaginaire quelconque. Par exemple, dans les porteurs d'âmes, c'est une machine à transférer les âmes dans le corps de quelqu'un d'autre. Enfin, pour faire en sorte de faire des safaris d'un genre nouveau, c'est-à-dire se balader dans le corps de quelqu'un d'autre sans que cette personne ne s'en rende compte. Ce qui est intéressant, mais dangereux. Donc, si je n'ai pas un petit décalage imaginaire, j'ai un tout petit peu de mal. J'ai besoin du décalage imaginaire à la fois en tant que lecteur et en tant qu'auteur. J'ai essayé de faire des romans dans la réalité, donc les thrillers, ça me semble plus ressortir du genre réalité finalement. Le thriller tel qu'on l'entend généralement se fait par les Américains. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une technique du thriller. C'est une littérature assez technologique finalement, dans le sens où on a des chapitres courts, très, très, très denses, avec un changement de lieu permanent, etc. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de technologie du thriller. Et je trouve que, par exemple, Yann, dans Transparence, échappe à cette technologie. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'échapper à la technologie du thriller, parce que finalement, après, on ne fait que des caricatures. Et j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs de thriller finissent par se caricaturer eux-mêmes et faire toujours la même chose, en utilisant des procédés, tout simplement. Donc moi, j'ai besoin du décalage imaginaire, ce qui est ma caractéristique d'auteur de science-fiction. Si j'ai pas un tout petit élément qui décale du réel, je peux pas y aller. Ça m'intéresse pas trop. Même dans le roman historique, d'ailleurs, parce que comme j'ai fait L'Enjeu mineur, qui est un roman historique, et j'ai mis de la fantaisie dedans, donc j'ai mis du décalage imaginaire. J'en ai besoin absolument. C'est ma respiration. Et voilà. Donc, dans tout bouquin que je fais, quel que soit le genre, de toute façon, il y aura un décalage imaginaire, parce que je pense que le décalage imaginaire permet de mieux observer notre monde. C'est-à-dire que c'est en se projetant dans un espace-temps quelconque qu'on peut mieux apercevoir, mieux distinguer les courants de fond qui traversent notre monde à l'heure actuelle. Souvent, ce sont les gens, les auteurs d'imaginaire qui proposent une réflexion sur ce qui se passe maintenant dans le monde. Et c'est indispensable d'ailleurs d'avoir cette projection dans l'espace-temps, sinon on n'a aucun recul et on ne peut pas apporter une sorte de réflexion sur l'évolution possible.
Mais alors justement, par rapport à la SF, ou comme le disait Ayerdal, il y a un effort supplémentaire qui est demandé au lecteur, parce qu'il faut décrypter finalement le message.
Les lecteurs sont de gros paresseux.
Bah et alors
Et les auteurs aussi, je pense, finalement. Parce que je pense que les auteurs, il y a certaines personnes, quand ils passent dans un rayon de science-fiction, qui voient les couvertures des bouquins illustrés, très colorés et très kitsch finalement, par rapport à ce qu'on voit chez Gallimard et Grasset, sobre et chic et bon genre. Il y a des gens qui font un grand détour en disant ce livre m'expose la figure, il y a quelque chose qui... Et quand, par miracle, ils s'arrêtent devant ceux-là, je ne parle pas des lecteurs conquis, hein, évidemment ceux-là ils existent, en général ils nous suivent, ils en discutent à fond sur les forums, c'est un lecteur passionné. Quand on a la chance de capter quelqu'un qui ne vient pas du milieu de la science-fiction, qui dit je ne lis jamais les romans de science-fiction, ça fait peur, ou c'est pas. C'est des robots qui battent contre des extraterrestres dans l'espace. Et qu'on a la chance de l'avoir celui-là en disant, mais essayez, je pense que l'auteur se doit aussi de faire un effort vers le lecteur, c'est-à-dire de lui passer poser des passerelles. Si c'est quelqu'un qui n'a pas les codes du genre, parce qu'il y a des lecteurs qui ont les codes du genre, et qui s'emparent très très facilement du genre, mais il y a des lecteurs qui ne savent pas s'emparer du genre. Donc ceux-là, moi je m'estime en tant qu'auteur de ne pas avoir le droit de le rater, et donc de lui essayer de lui poser des passerelles pour qu'il puisse entrer dans ce monde et après en découvrir les vertus, parce que je pense que là, une fois quand j'ai rencontré des lecteurs qui sont rentrés par hasard dans la science-fiction et qui ont découvert qu'ils adoraient ça d'un seul coup, mais c'est incroyable, parce que c'est un genre d'une richesse fabuleuse. L'imaginaire, c'est ce qui permet justement à la fois le dépaysement, dont parlait Cédric tout à l'heure, c'est-à-dire cette aventure, le voyage extraordinaire au sens vernien du terme. Ça permet une réflexion sur notre monde et ça permet aussi une... Et là, je vais parler des mythologies, parce que c'est... Ça permet aussi de raccrocher aux mythologies anciennes qui étaient des interrogations philosophiques sur le monde et sur l'être humain. Donc ce genre brosse tout ça d'un seul coup. Et donc, c'est d'une richesse inouïe et les gens, les lecteurs qui n'ont pas l'habitude, qui rentrent là-dedans et qui découvrent ça, découvrent la richesse du genre. Donc, nous, en tant qu'auteurs, on se doit aussi de leur faciliter les choses, à mon sens. Quoi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre.
Alors Philippe, on évoquait la mythologie, on retrouve dans Mascarade cette présence-là. Et surtout, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on voit finalement comment la vision d'une culture, la vision d'une identité peut finalement déchirer un peuple, un groupement de personnes.
Oui, voilà, je veux dire qu'un peuple, je veux dire en plus un peuple vraiment spécifique, un peuple basque, ils ont une histoire, ils ont une mythologie, et ils en sont presque prisonniers. Ils sont prisonniers de leur langue, ils sont prisonniers de leur région, ils sont prisonniers un peu de tout. Et donc pour en sortir, c'est très dur pour eux.
Parce qu'au départ, ils ont quand même tous la même ambition, la même envie.
Oui, ils ont tous cette envie, c'est l'indépendance. Je veux dire que le 80% des Basques, les vrais, eux, ils veulent avoir un pays, parce qu'eux, ils n'ont pas un pays. Je veux dire, ils font partie de ces gens qui ont un département, c'est du côté français, et 3 et 4 régions du côté espagnol. Donc ils se considèrent comme un vrai peuple, et puis ils dépendent soit des Français, soit des Espagnols. Et en plus, ils ont tout, je veux dire qu'ils ont toute cette mythologie, toute cette histoire, même une langue unique, parce qu'elle se rattache à aucune autre langue, et ils sont enfermés, je dirais, entre la mer d'un côté, la montagne de l'autre, et les pays. Et moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est de voir que comment ils essayent de s'en sortir. Soit, je veux dire, eux, du côté basque, ils sont sortis, ils essayent de s'en sortir par la force, alors que de notre côté, du côté catalan, ils sont sortis peut-être par l'économie. Donc, entre la Catalogne et le Pays basque aussi, il y a deux cultures, deux pays, deux langues et deux façons. Il y a presque le yin et le yang.
Il y a une phrase dans le livre où il y a un des personnages qui dit « Les Catalans, ils ont réussi, mais ils ne seront jamais un pays ».
Voilà, je veux dire que, par exemple, il y a une chose très intéressante. Les Catalans, pour développer la langue catalane, la Généralitat, le petit gouvernement catalan, en 80, a acheté les droits de Dallas, à l'époque. Ils les ont mis en catalan pour forcer les gens, la seconde partie, pour forcer les gens à regarder un épisode de Dallas en catalan, pour que les gens apprennent le catalan. Les Basques, eux, non. Les Basques, eux, c'était poser des bombes et tuer. Voilà, c'est deux façons, mais c'est eux aussi deux pays, deux visions, deux mythologies différentes. Mais je dirais, acheter Dallas et le passer en catalan pour forcer les gens à parler catalan, moi je dis c'est original, c'est ça.
Et en tant qu'éditeur, alors aussi par rapport à ce sujet, on parlait de la dimension fantastique, Rivière Blanche, il y a justement cette dimension fantastique, elle ajoute quelque chose là aussi.
Je dirais d'abord, éditeur, comme l'a dit Rivière Blanche pour commencer, il faut gagner de l'argent. C'est malheureux à dire, alors là on pourra entrer dans un débat sans fin si le livre est un produit comme les autres. Un éditeur va gagner argent. Quand vous prenez les meilleures ventes, vous allez voir du polar, du thriller et du fantastique. Mais du fantastique, ça va être Marc Lévy Musso qui est un fantastique. Bon. Et vous vous dites éditeur, vous regardez qu'est-ce que, à la limite, est-ce que je dois proposer des livres ou est-ce que je vais proposer des livres que j'aime ou que les gens, ou que les lecteurs lisent. Et le fantastique a explosé il y a depuis longtemps, mais 2-3 ans, il y a la petite qui débarque, qui est un mélange, je dirais presque, de fantastique, de science-fiction, de fantasy. Ça fait exploser. Et donc, moi, en tant qu'éditeur, déjà en tant qu'éditeur, j'aime le fantastique. En tant qu'éditeur, je publie du fantastique aussi. Parce que je pense qu'il y a un lectorat qui existe. Et commercialement, ça peut se vendre.
Je voudrais juste ajouter un tout petit détail. L'auteur qui vend le plus en France est un auteur de science-fiction. Il s'appelle Bernard Werber.
Oui. Non, c'est pas celui qui va le plus en France, parce que Marc Lévy va à 10 millions. Je dirais que c'est.
Oui, mais une fois. Pas plus.
Mais je dirais que si on regarde bien, je dirais Fred Vargas a bien de sortir un roman qui est un polar fantastique normand.
Ce qui était un peu le cas des précédents aussi. Hein.
Et elle vend énormément aussi, Fred Vargas, en plus c'est une personnalité, mais je veux dire qu'elle a toujours ce petit zeste de fantastique dans ses romans. Alors que je dirais du côté anglo-saxon, eux, c'est le thriller pur. Je veux dire, Pierre l'a parlé. Pour moi, si vous voulez écrire un thriller, vous prenez le Da Vinci Code et vous avez le mode d'emploi. C'est pas très dur à dire, mais si le Da Vinci Code, vous avez des chapitres courts parce que le lecteur il aime bien s'arrêter à un moment donné. Vous avez un personnage féminin parce que 90% des lecteurs sont des lectrices, dans le polar et tout ça. Vous avez le méchant, c'est un albinos catholique de l'Opus Dei parce que aux États-Unis, c'est les protestants. Vous voulez écrire un thriller, vous prenez un lexicon, c'est un très bon moment.
Cédric, justement, dans tes thrillers, il y a aussi l'intervention là, du fantastique pur.
Il y a une albinos, il y a des chapitres courts.
je voulais pas le dire, mais... Ça manque de catholiques, par contre. Mais...
c'est vrai. C'est un personnage féminin.
Non, mais plus sérieusement, c'est l'irruption dans la vie quotidienne, en particulier du commissaire Vauvert, de phénomènes inexplicables, inexpliqués. Ouais. Et c'est aussi ce mélange-là qui rend tes livres intéressants, parce qu'on a, la confrontation de ce bonhomme hyper cartésien, mais qui est capable quand même de comprendre à un moment qu'il se passe des trucs qui le dépassent.
Ouais, en fait, je voulais juste rebondir un tout petit peu, si je m'étouffe pas trop. J'ai des allergies qui se déclenchent. Sur ce qui vient d'être dit, quand même, et sur ces fameuses étiquettes, je pense que la plupart des gens lisent du fantastique, lisent de la science-fiction, ils lisent Verber. Désolé.
Ils ont pu lire Kafka, ils ont pu lire. Enfin, ils ont pu lire.
Non, mais c'est. Si tu veux, les gars, c'est un problème aussi d'a priori sur les genres, parce que les gens dévorent de la science-fiction, du fantastique, ils adorent ça. Dans l'audiovisuel, le cinéma. Les films américains mélangent tous les genres sans problème. Et c'est un problème un peu français. Ce fait qu'on mette sur un piédestal l'autofiction, le roman réaliste un peu chiant. Donc, alors que les gens, réellement, quand ils ont envie de se divertir, ils vont vers des genres de l'imaginaire. D'où le thriller qui marche à ce point-là. Je suis désolé. Et donc, en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que j'utilise ces éléments-là ? C'est parce que ça me fascine, et je trouve aussi que c'est ma façon, enfin, je trouve que la vie, elle est plus intéressante quand on s'imagine des choses, et c'est ce qu'on fait, on vit dans notre tête, donc aussi notre vie, elle est fantastique par définition, puisqu'on a, deux personnes n'ont pas la même vision des choses, on est témoin des mêmes choses, il y a des interprétations différentes, on le voit bien avec l'affaire DSK ces jours-ci, enfin, chacun vit les choses d'une manière totalement différente. Et le fantastique, pour moi, c'est ça aussi. L'imaginaire, c'est que quand on écrit une histoire, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'essaie à chaque fois d'orienter le regard du lecteur sur des détails, sur des choses que je veux lui montrer, parce que c'est une vision qui est la mienne et qui doit être orientée tout le temps. Et donc du coup, cet imaginaire fantastique, il arrive comme ça à mes yeux.
D'autant que le décalage, il est à chaque fois la même chose, c'est que Vauvert, il est très peu souvent directement confronté aux phénomènes, oui. Alors que nous, lecteurs, nous, on les suit, ces phénomènes-là.
Alors, en fait, Vauvert, donc, c'est un flic, c'est un commandant de police criminelle, c'est un gros colosse qui assez bourru, qui lâche rien en fait, sur lui, enfin, il a une muraille autour de lui, qui est très, très cartésien. Alors que concrètement, il a un don de double vue. Il voit les fantômes, il a un rapport avec l'autre monde, avec le monde invisible, qui est constant et qu'il renie. Et justement, il se renferme derrière cette apparence. Si justement ces lignes de feu traversent sa vie, c'est pas pour rien. Si le monde, l'autre, enfin, dans mes histoires, l'autre monde ne cesse de lui jeter des choses en travers de son existence, c'est pas pour rien. Parce que je crois aussi, enfin. La littérature, c'est aussi une façon de parler de l'être humain, de nos vies, de notre destin. Et depuis la mythologie, depuis l'Iliade et l'Odyssée pour nous, Européens, c'est une façon aussi de poser notre place dans l'ordre des choses et dans nos vies, avec cette quête initiatique. Enfin, je trouve qu'on n'a rien réinventé depuis ça. Effectivement, on en revient toujours à ça, aux figures mythologiques et aux religions qui en ont découlé et qui expliquent en fait nos vies, nos angoisses, nos peurs, les questions qu'on peut se poser, nos rapports humains sur la famille, sur l'honnêteté, sur la société telle qu'on l'a conçue après. Donc je trouve que c'est intéressant dans un livre de divertissement de faire appel à ces éléments-là qui nous parlent, puisque dans notre inconscient, on est abreuvé par ces images-là, ces archétypes-là, et du coup, ça rend les histoires palpitantes parce qu'on s'y reconnaît. Alors que si on écrivait des histoires juste sur la petite vieille qui va acheter ses patates, qui va faire ses frites chez elle et qui les mange, on tombe dans les à mon sens, les bêtises de l'art moderne et les choses de l'art pour l'art. L'art qui doit représenter la réalité, l'art, il ne doit pas représenter la réalité. Sinon, ça veut dire que la réalité est plus intéressante que l'art. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, le but de raconter des histoires, c'est de transcender cette réalité-là pour parler de l'être humain. Et donc, du coup, ces images, ces métaphores sont, me semblent nécessaires pour dépasser le cadre de nos vies quotidiennes que parfois on ne comprend pas.
Sur la rythmique dont parlait Pierre, c'est toi qui es le plus proche ici, justement, de ce que décrivait Pierre, avec des chapitres assez courts, avec des rebondissements, des changements de lieu, de dimension. Il y a des moments où, évidemment, comme c'est des histoires croisées, on est interrompu à un moment où on sait qu'il va se passer quelque chose et on a envie de savoir la suite, sauf qu'il va falloir patienter un peu parce qu'on va aller découvrir ce qui arrive aux autres personnages. C'est une manière aussi de faire qui est très particulière également, qui est très élaborée.
Alors, élaborer, je sais pas, mais, et là je redis toujours la même chose en boucle, mais ce qui m'intéresse, c'est de divertir les gens, donc d'arriver à une histoire qui soit super fun, qui fonctionne, qui soit agréable, et qu'on n'ait pas l'impression de faire un effort de lecture. Même s'il y a beaucoup de travail derrière, parce que je pense qu'on n'est pas là pour, quand on lit, on n'est pas là pour se prendre la tête, pour lire de la philosophie mal écrite, parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il fallait lire. Et je pense qu'à partir de là, on peut justement parler de choses vastes, mais pour moi, le médium, il doit être efficace.
Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a un premier jet quand tu écris et que derrière, tu passes au tamis.
Non, oui et non. J'écris un premier jet fleuve. Je suis comme quand je parle, je suis une pipelette, donc je ne m'arrête jamais. Et en fait, après, je reviens et je coupe tout ce qui est en trop, toutes les répétitions. Je coupe jusqu'à tout ce qui ne sert pas réellement à l'histoire ou qui n'est pas utile dans le fléchage psychologique finalement du lecteur, si ça doit lui faire sortir son attention de ce que j'essaie de lui montrer, je l'enlève. Quitte à le remettre plus tard ou pas. Donc c'est une forme de travail. Et aussi, ce que je travaille beaucoup, en fait, quand j'écris, je ne sais jamais réellement quelle va être la scène suivante. En revanche, je m'emploie à ce que, donc comme je disais qu'une phrase amène à l'autre de manière la plus limpide possible et qu'une scène soit articulée sur la suivante de la manière la plus excitante possible, du fait qu'on ne relâche pas le bouquin. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de lire. Et donc c'est ce que j'essaye de faire pour les lecteurs.
Alors, à Yandel, justement, il n'y a pas cette rythmique-là forcément dans Transparence ou Résurgence. Il y a des chapitres plus longs. Il y a aussi l'explication, la mise en place d'un contexte. C'est quoi ? C'est vraiment pour que le lecteur, justement, soit actif dans la lecture ?
Oui, alors c'est vrai, peut-être Transparence et Résurgence, oui, ils sont peut-être construits comme ça, en fait. Mais je demande toujours au lecteur d'être actif dans la lecture. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je décris le moins possible. Les descriptions sont des... En tant que lecteur, je les considère comme des parasites qui brident mon imaginaire. Donc j'essaye de ne pas brider l'imaginaire de mes lecteurs en décrivant le moins possible. Or, ça ne m'empêche pas, de temps en temps, de faire deux, trois petites choses, mais parce que c'est justifié dans le cadre de l'histoire et dans l'avancée du bouquin.
Je vais prendre un exemple. Dans Résurgence, il y a tout un passage autour d'un trafiquant d'armes. Il y a quand même une explication assez longue autour des armes à feu, etc. Quand je dis longue, ce n'est pas forcément chiante. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que... Oui. En l'occurrence, ça sert complètement le récit, puisqu'en l'occurrence, c'est pour permettre de comprendre comment fonctionne l'un des personnages principaux et qui est... qui est dès le début très clairement le méchant, et c'est une très grosse énigme qui il est. Et donc je le fais découvrir à travers cette relation qu'il a avec le fabricant d'armes, et tout ce qu'il va raconter ou tout ce qu'ils vont évoquer autour des armes, autour du tir d'élite, autour de ces choses. Mais c'est pour expliquer le personnage. Bon, parce que franchement, avant de commencer ce chapitre, je pense que je ne faisais pas la différence entre un Six Hour 87 et un Six Hour 88. Enfin, le B surtout.
Mais c'est vrai que la rythmique n'est pas du tout la même. On s'installe, on est moins... évidemment, il y a quand même une rythmique, il y a quand même un suspense, il y a quand même quelque chose qui nous emmène, mais on n'est pas dans la trépidance, on va dire, peut-être, qu'il y a chez Cédric.
Oui, d'autant que ce sont des histoires elles se passent par date. D'ailleurs, c'est les titres de chapitres, ce sont les dates. Et donc, à telle date, il s'est produit tant de choses. Alors, le chapitre va faire 25 ou 30 pages. Et si, à telle date, il n'y avait pas grand-chose à dire, il fera 2 ou 3 pages. Donc, il n'y a pas un rythme spécifique. Ça, c'est des... par exemple, c'est le cas de Demain une oasis, où là, j'avais mis un rythme spécifique, des chapitres très courts, et ça balançait. Le but du jeu, c'était de... Poum, 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 poum. Voilà. Dans Transparence et dans Résurgence, j'ai pas besoin de ça, parce que c'est pas ce que je veux qu'on regarde. Ah oui, tiens, c'est marrant, on a oublié de dire que l'auteur a envie qu'on regarde des choses particulières et en profite lâchement pour cacher des petits messages secrets. Par exemple, Da Vinci, non. J'ai répondu.
Oui. Mais Pierre, justement, quand tu dis que tu fais pas du thriller, ou en tout cas que tu fais, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, tu fais du thriller, c'est un peu ça, si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure.
De science-fiction qui est un space opéra de Cédric Gallus. Non, je ne savais pas que j'étais en train de faire un space opéra, je ne savais pas que c'était de la science-fiction. J'ai fait quelque chose de façon spontanée.
Mais là aussi sur la question du rythme, parce que dans les livres dont tu as parlé tout à l'heure, que ce soit Porteur d'âme, que ce soit l'Évangile du Serpent, le Chemin de Damas, etc., il y a quand même aussi une rythmique très particulière, une vraie construction.
Je ne cherche pas à faire des constructions particulières. J'essaie de m'adapter au rythme interne du récit. Je pense que chaque roman a sa propre logique, son propre rythme. Et mon boulot à moi en tant qu'auteur,
c'est ça que je voulais dire. Fallait demander.
C'est de l'accueillir selon sa propre rythmique. Mais non, quand vous faites un space opéra comme ça, comme La Fratrie du Bancal, c'est pas du tout le même rythme que sur un roman contemporain. Parce qu'effectivement, on passe par des obligations de description, d'explication, hein, parce qu'on arrive sur une planète, elle est comme ça, et voilà, elle a telle caractéristique, et on est obligé de le dire en permanence. On ne peut pas sauter sans arrêt d'un truc à l'autre, parce que c'est vraiment très très déroutant pour le lecteur. Du coup, il n'aura pas le temps de s'installer dans un monde. Je devrais déjà en être parti et c'est difficile. Donc, mon boulot à moi en tant qu'auteur, c'est vraiment de me mettre à l'écoute du roman qui sort. Je suis plus un accoucheur de roman qu'un vrai auteur de roman. D'ailleurs, je suis un escroc total. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le livre.
Rembourse-nous alors.
Pour les droits, je suis. J'ai l'impression que le livre s'écrit en moi, par moi, mais que je ne suis pas son auteur. Et donc. Plutôt la personne qui est chargée d'accueillir le livre par l'écriture. Ce qui veut dire aussi, comme Cédric, que je m'attache beaucoup à ce que rien ne vienne freiner la lecture pour le lecteur, et donc de faire l'écriture le plus transparente possible. Petit hommage. De façon à ce que le lecteur ne voit que le fond des choses et ne voit pas la surface. Parce que je pense que le roman contemporain, le roman d'autofiction, ce sont des gens qui agitent les vagues pour qu'on voit la surface. C'est un style littéraire en soi, c'est tout à fait louable et tout ce qu'on veut, mais voilà, on s'arrête à l'écriture. Et moi, je ne veux surtout pas que l'écriture freine le lecteur dans l'histoire. Je plonge carrément dans l'histoire et que le style ne vienne à jamais, à aucun moment, l'interrompre. Donc voilà, c'est ça mon.
Mais parce que j'avais une idée précise quand je parlais de construction, c'est en particulier l'Évangile du Serpent, par exemple, où on a un personnage christique qui est au centre, et finalement, on a quatre personnages qui alternent les chapitres et qui sont finalement comme ces quatre évangélistes.
Exactement, donc ça c'est pour entretenir ma légende d'escroc. Je me suis simplement pompé sur les évangiles.
Discret en plus, hein, personne ne s'en sera rendu compte.
Et en plus, non, je l'annonce. Hein,
tu ne peux pas piquer sur Wikipédia comme tout le monde.
Les quatre évangélistes. S'appelle, ben non, c'était Ligue de droit, je crois. Mes quatre évangélistes s'appellent Mathias pour Matthieu, Yann pour Jean, Lucie pour Luc. J'ai mis une fille quand même, il disait seulement que tu pensais sur l'histoire du monde. Et donc, Marc pour Marc. Et j'ai relu les évangiles canoniques, hein, ceux reconnus par l'Église, s'il n'y en a pas d'autres. Et j'ai recopié, enfin, j'ai pas recopié, mais j'ai transposé de façon moderne. La façon dont les évangiles sont racontés, c'est-à-dire quatre témoignages sur le passage de quelqu'un qui se décrit comme le Christ, et donc avec des différences. Et après, je vais travailler de façon plus thriller, forcément, parce qu'il y a aussi un sens du. Enfin, le livre est construit sur un suspense, sur la rencontre des personnages, sur un calibrage très précis au niveau des chapitres.
Avec une différence par rapport à la SF, c'est que la SF, c'est souvent foisonnant de personnages. Ouais. Le thriller, c'est beaucoup plus concentré. T'aimes bien la formule? Je te la donne si tu veux. C'est plus concentré sur des personnages dont on suit vraiment à proprement parler le destin, ou une histoire à un temps donné.
Ouais, enfin, je me suis amusé à plusieurs choses. Certains thrillers, on a quatre personnages comme dans l'Évangile du Serpent. Sur Porteur d'âme, on a trois personnages, on a trois intrigues. Et je me suis amusé dans deux romans, L'Ange de l'Abîme et Les Chemins de Damas, d'avoir deux intrigues, une intrigue principale et une intrigue qui change de personnage à chaque chapitre.
Mais qui sont tous reliés les uns avec les autres.
Donc il y a deux chaînes de narration différentes, l'une dont on reprend les mêmes personnages un chapitre sur deux, l'autre ce sont des personnages qui s'enchaînent les uns aux autres pour arriver au même point que les deux personnages.
Mais à part ça, tu construis pas tes livres.
Non, mais c'est ça. Et je l'ai fait de façon très spontanée, c'est ça qui est incroyable. J'ai l'impression, mais ça après je me suis engueulé avec deux auteurs là-dessus, que moins ils ont mis d'ego dans ces bouquins, mieux ils se portent. J'essaie de disparaître, d'être transparent moi aussi dans les rôles au maximum.
Philippe, c'est le même système dans Mascarade, on suit un personnage principal qui est celui dont on pense qu'il détient la clé du problème, hein, qui est Michael, et puis autour de lui il s'agit de tous les autres, qui soient les victimes ou les coupables des agissements.
Moi, d'abord, mon premier problème a été des recherches. Parce que que le théâtre est un sujet sensible. Quand on se lance à cette écriture sur le théâtre, sur le groupe terroriste, il ne faut pas dire trop de bêtises. Donc, avant d'écrire vraiment le livre, j'ai dû passer 3-4 ans à faire des recherches là-dessus. Et à partir du moment où j'avais toute cette idée sur le théâtre, où je savais où j'allais, à partir, c'est vrai, j'ai décidé que tous mes personnages étaient basques. Je ne voulais pas rentrer dans une dualité entre les gentils basques et les méchants espagnols. Donc je me suis dit, je vais rester vraiment, tout le monde sera basque. Avec en plus des problèmes aussi au niveau des noms basques, parce que pour le lecteur, c'est pas évident de lire certains prénoms.
Il manque un lexique. Hein.
Il manque un lexique, oui, parce que j'ai essayé d'apprendre le basque, j'ai abandonné le basque. Mais après, c'est vrai que moi, ça a été vraiment un roman, vraiment, c'est un roman linéaire. C'est-à-dire que par de A, je vais choisir. Mais parce que là, toujours, j'ai, dans mon écriture, toujours, j'avais dans ma tête, basque, basque, théâtre. Ne dis pas de bêtises, ne dis pas de bêtises, sinon tu te fais sauter la voiture ou autre chose. Il faut penser que c'est toujours, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est toujours un sujet très, très, très sensible de chaque côté à frontière. C'est-à-dire qu'en Espagne et en France, il y a encore des prisonniers politiques. Alors, est-ce que je dois appeler, par exemple, un problème que j'ai eu, est-ce que je dois appeler un membre de l'État un terroriste? Ça, ça a été un gros problème. C'est idiot, mais ça a été un gros problème. Parce que la presse espagnole dit que c'est un terroriste, mais les Basques, ce sont des résistants. Et je me suis dit, comment? Alors déjà, il a fallu que je jongle là-dessus. Donc ça a été tout ce travail d'abord, avant de rentrer dans l'histoire proprement dite, que j'ai fait. Et après, je veux dire, c'est vraiment un roman linéaire de là.
Mais après, la réflexion, elle est vraiment très intéressante aussi pour n'importe qui, parce qu'on est dans la réflexion de savoir comment on évolue à un moment donné, comment est-ce que la fougue peut-être d'une certaine jeunesse peut, avec la sagesse et l'âge, se transformer.
Oui, mais je veux dire que la fougue, on la retrouve encore aujourd'hui, je veux dire que le théâtre, c'est toujours des jeunes, je veux dire qu'à la limite, comme je dis toujours, vous prenez des jeunes de banlieue de 9-3, vous leur dites vous êtes un pays indépendant, vous voyez, et vous les transformez en membres de le théâtre. C'est-à-dire que les jeunes actuellement de l'ETA, ce sont des jeunes paumés, qui auraient pu, qui, s'ils étaient à 9-3, ils feraient du trafic de drogue.
Sauf qu'un des reproches des anciens de l'ETA, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'idéologie n'est plus présente.
L'idéologie n'est pas présente. On se bat, on tue pour rien, presque maintenant. Il n'y a plus cet aspect de contre Franco.
Il y a le même problème avec le 2-0.
Oui.
La question n'est plus de savoir si on a affaire à des terroristes ou à des résistants. La question, c'est qu'on a, peut-être en partie des nationalistes et puis d'une autre façon des mafieux. Quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ce qui est marrant, c'est le mot terroriste. C'est comme la révolution française qui a instauré la terreur.
Voilà.
Les terroristes, c'est les gens de l'État.
Voilà, mais je veux dire qu'au Pays-Bas, c'est étonnant. Au Pays-Bas, le terroriste, non, ils ne sont pas des terroristes.
C'est celui qui terrorise le terroriste, donc ça dépend de quel côté on se trouve. Hein. Oui, mais bon, après, voilà, toutes les situations. Cédric, il y a des choses particulières dans tes livres, c'est qu'il y a toujours... Il y a la dualité qu'on vient d'évoquer entre les coupables, ceux qui les poursuivent, etc. Mais il y a toujours un électron libre au milieu qui se trouve plus ou moins, quelquefois, confronté un peu de force ou par hasard aux événements. C'est même un peu le cas de Malco Swan, finalement, qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive dans le jeu de l'ombre.
Oui, disons que oui, enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on mène nos vies, donc autour de nous il se passe plein de choses, et on n'a pas forcément toutes les informations, et du coup ça rajoute à cette fameuse dimension fantastique aussi, on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on n'a pas eu tout ce qui s'est dit autour de nous, tout ce qui s'est fait, on voit des petits bouts qui passent, qui traversent nos vies, et parfois quand ça happe notre propre existence, on ne sait même pas pourquoi. C'est ce qui arrive à mon personnage, qu'il a eu un accident, d'accord, au tout début du livre. Il a un traumatisme inexplicable, mais il se retrouve harcelé par quelqu'un qui visiblement lui reproche quelque chose, et il ne sait pas de quoi il retourne, qu'est-ce qu'il a fait de si mal. Il se rend compte petit à petit qu'il était vraiment un gros salaud, qu'il a égoïste, qu'il a vraiment pas un mec bien, quoi. Mais donc petit à petit, il y a cette rédemption qui s'opère, mais il n'arrive toujours pas à cerner qu'est-ce qu'on lui veut, qu'est-ce qu'il a fait de si mal que ça. Et j'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on peut ressentir dans nos vies au quotidien, où parfois des gens nous veulent du mal, ou on ne sait pas pourquoi. Oui, dans le fantastique surtout.
Encore plus celui-là, je trouve, parce qu'on peut, à la fin du livre, imaginer qu'il a tout inventé, il a tout imaginé.
Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai discuté avec certains lecteurs qui l'ont lu et qui ont eu des visions totalement différentes de l'histoire, ce qui est absolument génial, voire même, enfin, il y a eu au moins trois explications différentes qu'on m'a données, et du coup ça appartient au lecteur, donc c'est ça aussi la magie du livre, c'est que ça, quel que soit le genre, c'est des mots imprimés sur du papier, ça n'existe que à l'instant où quelqu'un est en train de le lire, ça existe dans sa tête. Donc c'est aussi pour ça qu'au niveau des descriptions, enfin, il faut être très précis là-dessus, enfin, très pro là-dessus, puisque moins on en met justement, plus le lecteur va pouvoir développer son imaginaire. Et il faut juste réussir à le flécher de manière la plus efficace possible pour qu'en quelques mots, la personne ait l'impression d'avoir lu une super description, d'y être, d'avoir des personnages géniaux, alors qu'il y avait trois mots bien agencés qui ont déclenché ça dans son imaginaire. Et déjà, ça, c'est du fantastique en soi. On revient toujours à la même chose, mais... Et du coup, par rapport à ces électrons libres, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de se projeter dans l'histoire, puisque c'est comme ça souvent qu'on vit les événements autour de nous.
C'est souvent les personnages auxquels le lecteur peut s'identifier le plus facilement aussi.
Voilà, c'est les personnages les plus... Ouais, voilà.
Alors j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le thème, mais depuis que j'ai lu le livre, j'ai envie de la poser. Comment on arrive à créer un personnage qui s'appelle Malco Swan, où on arrive à mêler SAS et Proust?
Alors bon, je ne sais pas si je dois l'avouer, mais c'est exactement ça. j'essaie à chaque fois de trouver des noms de personnages qui marquent les imaginations, qui soient à la fois originaux, à la fois pas trop étrangers, qu'on retienne.
Ça jaillit un peu sur son caractère au personnage ou c'est juste un effet de style?
Je cherchais un nom qui sonne bien et il se trouve que par rapport au Swan en anglais, voilà, le chant du cygne, en fait, tout ce qui lui arrive, quoi, ça correspondait à l'histoire. Tout d'un coup, je suis arrivé avec l'association Malco Swan, donc Malco venant évidemment de Malco Linge de SAS. Voilà, c'est le seul emprunt que j'ai fait à De Villiers, mais il est né comme ça. Voilà, c'était. Mais effectivement, c'est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui le voient pas. Ni l'un ni l'autre. J'ai bien vu dans le métro quelqu'un qui, après avoir vu une personne passer avec son chien qui s'appelait Figaro, a dit à sa fille: "T'as vu, il s'appelle comme le journal." Donc, il y a des lecteurs qui voient vraiment pas des trucs. Hein.
Enfin, Ayerdal, il rit, mais il s'appelle comment ton tueur dans Résurgence?
Non, je ne suis pas d'accord. C'est toujours sur moi que ça tombe. Tous mes noms de personnages.
Dis-moi que je suis malhonnête.
Tous mes noms de personnages, depuis que j'écris, et un certain nombre de noms de lieux quand il s'agit de science-fiction, sont des jeux de mots pourris. Tous, sans exception.
Il s'appelle Marx, son tueur, c'est bien ça?
Oui, il s'appelle Marx, bien sûr.
Et tu veux nous faire croire que c'est juste un hasard?
Marx, c'est le diminutif de Marxman. Marxman signifie grosso modo tireur d'élite.
Alors, j'ai un escroc à ma droite, mais alors j'en ai un autre à ma gauche. Là,
non, on a besoin d'argent, nous.
Non, mais sérieusement, c'est quand même aussi intéressant. Si on regarde d'un peu plus près par rapport à ce qui se passe dans l'histoire et dans le livre, que ton tueur s'appelle Marx.
Oui, mais d'ailleurs, il est...
Enfin, ça ne s'écrit pas comme on pourrait l'imaginer.
Mais dès la fin du premier chapitre, lui-même fait un putain de jeu de mots sur son pseudo, sur le pseudo qu'il s'est choisi. J'ai complètement oublié. Où il dit, mais grosso modo, qu'il a plus un côté Harpo qu'un côté Karl. Donc là, si le lecteur n'a pas compris où on voulait en venir...
Sauf qu'il coupe les cravates au fusil mitrailleur, quoi. Il a dû utiliser une paire de ciseaux. Finalement, ce qu'on voit avec vous quatre, c'est qu'encore une fois, comme c'est un thème qui revient régulièrement depuis 10 ans aux Imaginales, c'est que le genre, c'est finalement pas important du tout, Pierre. Ou l'appellation, ou l'étiquette.
J'ai l'impression que c'est important pour les libraires, toute la chaîne de vente du livre, parce qu'il faut placer les bouquins quelque part. Et que certains lecteurs aussi aiment peut-être les types de bouquins, et donc voilà, ils vont le trouver plus facilement.
Vous êtes pénible aussi, vous changez de genre sans arrêt, comment vous voulez qu'on s'y retrouve?
Oui, mais ça pose des problèmes aux libraires aussi. Parce que ça pourrait être des bouquins, du coup. Mais bon, moi, Audiard disait les cons, ça ose tout, c'est vraiment ça, ça les connaît. Et je suis un con parfait, quoi. J'ai envie d'oser à peu près tout ce qui me passe par la tête, et je ne m'interdis absolument rien. Si j'ai envie de faire de l'historique, je fais de l'historique. Et après, c'est à la chaîne du livre de se débrouiller pour mettre les bouquins quelque part, mais les vendre quelque part. Mais je pense que rien ne doit venir freiner l'envie d'un auteur. Et
Moi, je suis assez paradoxal parce que je reviens un coup sur deux, je reviens au space opéra, qui est mon domaine de prédilection. C'est-à-dire, je pars dans l'espace lointain avec des étoiles, tout ça. Et quand je suis là-haut dans l'étoile, je dis vivement, je reviens sur Terre. Et donc, je fais un roman beaucoup plus contemporain, et tout ça. Puis quand je suis dans le roman contemporain, je dis ah là, j'ai envie de repartir dans l'espace, etc. Je vis beaucoup avec ça. Enfin, c'est ça qui me motive à chaque fois. C'est-à-dire, quand je suis sur Terre, je me sens un petit peu à l'étroit sur Terre. Et quand je suis dans l'espace, j'ai aussi envie de revenir sur ces racines terrestres. Donc c'est l'alternance permanente entre ces
envies. Et justement, dans l'édition, Rivière Blanche, c'est fantastique, science-fiction.
C'est fantastique, c'est science-fiction, c'est fantasy un peu, mais un tout petit peu.
Il y a un bon exemple qu'on va découvrir ici, c'est Yos, avec Interférence, qui est un...
Est-ce que c'est Yos ? Est-ce que c'est la science-fiction ? Ou est-ce que c'est du politique ? Est-ce que c'est la science-fiction politique ?
Alors moi j'ai une autre question, je lui poserai parce que je l'ai en entretien, c'est du conte philosophique pour moi, Interférence.
Je sais pas, Yos c'est Yos. Pour moi, oui. Je le connais depuis 10 ans.
Et d'ailleurs je pense que c'est là qu'il faut ranger ses bouquins dans les librairies, dans le rayon Yos.
Comme je dis, beaucoup d'éditeurs veulent enfermer un auteur dans un genre, je veux dire. Et moi je pense que...
C'est pas une bête idée si on vous rangeait tous par ordre alphabétique, sans distinction de genre.
C'est pour ça que j'ai pris un
livre et que comment les gens se retrouvent dans une librairie, il faut bien qu'il y ait des codes et tout.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il faut moins de 1,80 m. Parce que là, au niveau de la sélection, je ne sais pas comment on va faire pour choisir parmi la masse de données qui va déferler sur Internet et comment on va s'y prendre en tant que lecteur.
Moi, je pense que le lecteur va suivre l'auteur qui lui plaît à n'importe quel genre. Je veux dire qu'on a Pierre, on suit Pierre, qu'il soit science-fiction ou thriller.
Non, elle est annulée. Le truc d'après est annulé. Parce qu'on est bien ensemble. Hein, et...
Voilà, donc je pense que moi, justement, le lecteur va suivre un auteur, il y a trop d'amitié.
Maintenant qu'on est là, on n'en bouge plus jusqu'à dimanche.
Bon courage avec Yos.
Merci. Bon, pourquoi ? Oh là, bah, je vais aller m'enseigner alors. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Et puis, bah, voilà, merci, vous l'aurez compris, hein, c'est vrai qu'on est dans un genre qui est multiforme. Et bah, voilà, à vous de découvrir, à vous de faire une idée. Et lisez les livres de ces auteurs parce qu'il y a des vraies jolies choses à découvrir. Merci beaucoup. Et bon festival. Merci.